Je suis très heureux de vous voir ce soir et ainsi que Jean-Pierre qui a eu la gentillesse de m'écrire une préface pour le livre dont je vais faire une lecture tout de suite. Voilà. Je ne sais pas s'il faut dire autre chose.
Il n'y a rien
Donc,
à ajouter, vous pouvez
non,
aller.
non, non, non. Évidemment, les œuvres qui sont exposées n'ont pas été annoncées parce qu'une lecture simple avec des murs nus. C'est assez espèce, je trouve, mais avec ce qui était là, ce qu'on a mis là, c'est pas mal quand même.
Alors, dis-nous un peu de quoi il s'agit.
Ah,
Parce que c'est ça, le
ben
but.
Voilà. Donc
je vais
moi,
faire l'intervieweur, c'est mon métier.
Voilà. Je fais partie de l'académie de Bernard et mon professeur. Je suis des cours de pluridisciplinaire. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler des matériaux différents de ce qu'on a d'habitude. Je ne parle pas des peintures qui sont sur les murs, qui sont plus anciennes. Et donc, j'ai travaillé avec des bottins, du papier de photocopie qui sont là-bas au sol, et des bouteilles en plastique, mais c'est trop petit, c'est pour mettre ça, mais peut-être que l'année prochaine, on sait jamais. Voilà. Donc voilà, et on cherche. En fait, on cherche. Moi, j'ai pas trouvé ça tout de suite. Hein,
Attends, mais... qu'est-ce qu'il a d'important ce papier de bottin? Parce que on m'en parle tellement. Généralement, on donne des coups sur la tête des gens qu'on interroge. Avec
tout à
ça,
fait. Ça ne laisse pas de trace.
Entre autres. Oui.
J'aurais voulu laisser une trace. Avec... mais le bottin.
On dit ça, hein, le bottin,
ouais.
Tu sais.
Tout à fait.
Et puis alors, on arrive chez Gallimard parce que c'est rue Sébastien Bottin. C'est la deuxième piste. Et la troisième, je pensais aussi à ce gars qui s'appelle Louis Roquin, qui fait de la musique en arrachant des feuilles.
Ah oui,
super. Il a donc des,
ah oui.
Il a 10 micros en même temps. Il froisse des feuilles de bottin, il
ah,
les arrache.
Formidable.
Ah oui, il fait ça avec Michel Mettel, la performance de Polyphonix.
Ah oui, ça, c'est le genre de performance que j'aime bien.
Oui. Louis Roquin, retiens son nom.
Oui, je retiens. Pour moi, le bottin, d'abord, il paraît qu'il n'est pas réutilisable. Donc, moi, je l'ai réutilisé une dernière fois pour faire des trucs comme ça. C'est pas venu tout de suite. Quand on arrive à faire des pièces comme ça, on ne sait pas où on va. Hein. Moi, j'ai une idée dans la tête et puis je commence dans un coin et je ne sais pas ce à quoi je vais aboutir. Les petites pièces qui sont là devant sont la suite de ça. Parce que Bernard m'a dit, mais on pourrait faire des pièces plus petites. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait. Mais j'ai pas commencé par ça. J'ai commencé tout de suite par un grand machin comme ça. Deux, d'ailleurs. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, c'est Bernard qui m'a dit ça hier, c'est que les peintures qui sont au mur, il y a une étroite corrélation entre quand on voit ça de loin, entre l'aspect de ces textures-là et les peintures. Mmh. Et effectivement, c'est vrai, j'ai une continuité dans la pensée que j'ignorais. Mmh. Voilà. Alors, bon... Jean-Pierre est venu vraiment très gentiment alors qu'il a beaucoup de boulot. Il a encore 200 pages à lire ce soir, il m'a dit.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je dois interroger dans 2 jours au Beaux-Arts Patrick Virel,
voilà.
Son roman « Je suis comme un puma qui feule ».
Ah oui.
Un puma qui feule dans ma mémoire. Mais la question n'est pas là. La question, c'était de se dire pourquoi on a cette relation, toi et moi.
Ah, bonne question.
Alors, via le théâtre poème.
Voilà.
Où il était.
J'ai travaillé pendant 10 ans.
10 ans. Metteur en scène, finalement.
J'ai tout fait.
Ça.
J'ai tout fait.
Régisseur.
Je suis un homme de théâtre, en fait.
Régisseur, un homme de théâtre, c'est ça? C'était le premier à monter ce texte impossible qui s'appelait, dont personne ne voulait à l'époque, qui s'appelait Arthur Rimbaud.
Oui. Oui.
Et il l'a mis en.
Non, j'ai accroché tout de suite, moi.
Ouais.
Oui,
c'était dans les années 90, donc en fait j'avais un texte complètement illisible, comme la plupart des textes que j'écris, et puis il a monté Je pense qu'on va être à sa 150e représentation aujourd'hui.
C'est fort possible.
Oui, oui,
je l'ai pas suivi.
Donc parfois, c'est très curieux. Hein.
Ouais.
On se heurte à... Ben, voilà.
Mais je crois qu'un texte, il faut le faire passer par le... comment est-ce qu'on dit le par la voix, par l'organe vocal. C'est pas simplement un texte écrit. Donc, je te donne.
Donc voilà notre relation amicale. Oui. Elle passe par une relation professionnelle aussi.
Oui.
Ce que je voulais souligner. Et je suis gré de dire à Bob, voilà. Alors, j'ai écrit ce petit mot. Comment lire ce texte? Et moi, je crois qu'il ne faut pas essayer de, si on commence à décrypter, on n'y est pas. Il faut s'immerger dans un texte. Il faut s'immerger, il faut se lancer à corps perdu dans le texte en se disant est-ce que j'en sortirai vivant, est-ce que je vais tout comprendre? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de tout comprendre, il s'agit d'être dans le magma et de se laisser imprégner par tout ce qui vient. Ça s'appelle l'ariterita. L'ariterita. Moi, je me suis dit d'abord ce titre, l'ariterita. J'en ai fait pratiquement une entérite verbale, une diarrhée verbale, un logoré, une logora, comme on veut, en fait, et je me suis dit, voilà du côté où nous sommes, et comme il y avait beaucoup de relais scato et d'autres mots de cet ordre-là, je n'avais pas tort de me lancer à corps perdu dans cette déglingue, en fait, pour cette dégelée-là. Et alors, je crois qu'on écrit un texte quand on est au bout, et puis on se dit qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce que je peux dire moi. Ben je peux dire ceci. Donc ça s'intitule « Bob le maire au pays de Gedmo » ou « Commentaire y arriver ». Eh bien c'est tout simple. Vous prenez un saxophone à flûte, un bête saxophone à flûte et vous en faites un saxophone à fluide. À spermato, à gamme, à gabette ou à tout ce que vous avez à portée de voix. Et voilà, vous en jouez déjà, c'est un début lumineux, n'est-ce pas? C'est comme ce vasistas dont on parle quelques pages plus loin, au même endroit. Un de ces petits vasistas valitatum qui ne se prennent pas pour de la merde, alors qu'on en voit par milliers des milliers sur tous les toits. Vous le transformez en un vaste vasistas, en lui demandant ce qu'il fait là. Raplapla, le gars, non, Rikiki et Akuya, comme s'il n'avait pas compris la question. Bon, vous répétez deux ou trois, sinon 30 ou 300 fois l'opération, et c'est parti, mon Larry. Vous embarquez comme Sherpa Larita, dont vous êtes le suave mari sexy. Si, si, sinon, pour qui seraient ces serpents qui ciblent dans votre slip? Ce prétexte, c'est vraiment n'importe quoi, d'une capture d'œuf d'Aquetus ou de tout autre bestiole morpionibus, et en avant pour l'aventure au l'ariterita. C'est où l'ariterita? C'est qui? C'est quoi? Vous pensez tout de suite à l'entérite, à la fameuse entérite verbale qui vous conduira à la va-vite au logora. C'est une direction possible, oui, mais en même temps une impasse, fut-elle une impasse moi le beurre et l'argent du lecteur. Abandonnez donc cette orientation-là et ne perdez plus non plus votre temps avec ce gros tas de tracts syndicaux des prolétaires de l'écriture qui essayent de vous refiler comme sur le stand d'une kermesse à boudin le camarade Karl Marx. Nac Vermo, oui, élever le niveau, même si, comme nous le confiait hier encore à propos des jeux de mots, le camarade Raymond Queneau, il faut d'abord se débarrasser des plus pitoyables, qui sont souvent les plus ténaces. Il disait entre autres, j'ai rencontré une gitane qui fumait des gauloises. Et il disait, je le fais trois fois parce que vraiment ça m'habite et comme ça je suis tranquille. Et qui vous chaussetrape à coups de gogdio et autres contrépétries à tir l'haricot, à coups de chasse-poscato, ou qui vous font marcher à tous les coups avec de gros sabots. Bref, si expédition il y a, on exigera tout le moins qu'il s'agisse d'un vrai parcours du combattant et non de celui d'un comique troupier qui de son côté n'a que faire d'un QI dont le cul n'est pas exhibé. Pas toujours facile, la vérité, d'avancer sur un tel terrain miné, semé d'embûches qui plus est, et sur lequel on risque fort de rencontrer un sacré bordel de sacrés tarés textuels, chargés eux aussi de mots valises, overbookés, et au nom desquels on notera quelques tribus ethniques de Tamer, du genre Rapapui de Cherbourg, ou autres Flawa, j'ai pensé de Flawin, sans doute, pour être local, ainsi qu'un grand nombre de caractériels grammaticaux, dont une lédifice, une madame orifice, des tentouseurs à bâton, des orgiaques à répétition, un grand condom dieu de la fornication, et mille autres improbables créatures dont la parlature est à la langue de Morflaire, ce que la morflure est aux états d'âme linguistiques de la belle-mère d'un commissaire divisionnaire. Car nous sommes dans une aventure totalement langagière, c'est sûr, peu importe l'histoire, c'est archi-secondaire. L'important, c'est une fois dépassé Sodome, Sodome et gros mots, de bien naviguer à vue de nez, sans GPS et en se fiant exclusivement à l'engine Angèle moitié espèce et trois quarts givré terrestre, qui nous sert de guide vers le doux pays de Gedmo. Tout le monde peut y arriver. Ce n'est pas la connaissance exhaustive des borborimes du petit rochin et des litanies de jurons dans Kiswahili wallon qui devrait constituer un obstacle majeur, insurmontable et vous décourager. De toute façon, la bibliothèque locale de Gedmo est ouverte à tout un chacun 24 heures sur 24. On y consultera avec profit les mémoires d'un dyslexique apprivoisé de la région de Corty-Loidon, ou les poèmes parfumés de Marc Papillon de la Frise, les œuvres complètes d'André Martel, le célèbre Papa Folle, ou l'oiseau vespasien d'André Miguel, les fatraseries de Watriquet de Couvin, et celles de l'écolier Libousin de Rabelais, sans oublier les Pef et Rep et Ramouillette sur le Pet et autres comptines salopes en biélorusse. J'aurais dû ajouter, en pensant à mon ami, les grandes poésies de Marcel Picret. Bonne lecture. Voilà. Commencez, mon cher.
Merci, merci.
Merci pour eux.
Bon, ouais, je pourrais prendre, fermer les yeux et dire je vais ouvrir à n'importe quelle page, mais au fond, je vais prendre un chapitre entier. Je sais pas si je veux pas lire des heures non plus. Et je vais faire un petit résumé du début. L'Ariterita ont un engin Angèle qui les mène quelque part parce qu'ils veulent trouver l'œuf d'Actus. Ils ont attrapé un Actus dont la peau vaut des milliards de sous et
là, c'est la peau de quête.
Ouais, c'est un peu ça.
Ça ne vaut rien, ça.
Ça ne vaut rien. C'est un côté prépucien. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Oui, bon.
Je sais, ça décontenance, mais en fait, c'est comme ça qu'on lit, hein.
Oui. Et alors, ils veulent trouver un œuf d'Actus. Puisque l'Actus pond des œufs, comme tout le monde le sait. Donc, pour arriver là, ils doivent traverser toute une série de choses. La passe-moi le beurre, par exemple, et bon. Et alors, ils doivent.
Et l'argent du beurre.
Et l'argent du beurre, voilà. Et ils doivent passer aussi par le territoire de la tribu des Flawa. Et c'est ça que je vais dire. Les Flawa. La tribu des Flawa, aussi peu qu'ils étaient, n'en était pas moins avide, avare et avorton féroce. S'ils eussent eu les moyens intellectuels pour se compter, le chiffre 625 eût été leur nombre. Quoi qu'ils croyassent dans leur naïveté infantile, qu'ils fussassent plus nombreux que se lassent. Ils persistaient à croire en la progression géométrique du nombre des membres de la tribu grâce à leur omnipuissance virile. C'est en cela que les paradoxes ne leur faisaient pas peur. D'ailleurs, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient compter sur personne, ni sur leurs doigts, ni sur le dos des autres. Et le chiffre précité était pour eux aussi abstrait qu'un bocal de confiture aux fraises pour un banc de sardines. Cependant, leur pulsion naturelle de survie ne les trompait pas, car une loi génétique, approuvée par le comité de sélection en 12 millions avant J.C., avait décidé une fois pour toutes que jamais leur nombre ne dépasserait le chiffre fatidique de 625. En effet, dès qu'il y avait surnombre, petit 4, donc à partir du 626e, ceux-là qui étaient les premiers, petit 5, donc à partir du numéro 1, entraient dans la catégorie des 3B. Les Big Ben Bomb. Ces premiers, en général, les plus vieux, se prenaient à gonfler comme des préservatifs entre des mains d'adolescents facétieux. Ils se boursouflaient comme des lutteurs de sumo, mais à tel point qu'une fois devenus baudruches, ils s'envolaient vers les terres et disparaissaient à tout jamais dans l'immensité galactantiquérienne. Oui, je dois dire quelque chose. C'est que j'ai mis des pièges partout et je me fais prendre à mes propres pièges.
Je crois bien.
Oui.
C'est la moindre des choses.
Voilà. Donc,
Hack what
le ah, oui, vas-y.
Hack what Le lyrisme m'emporte, il me faut rectifier. Certes, et forcément, il s'élevait, prenait de l'altitude en grosse quantité, et se rapprochait évidemment des nuages de Hallbart, lesquels crevaient les parsons en de grands éclatements multicolores. Car plus il était gros, ces malheureux surnuméraires inversés, plus il était coloré, et plus l'éparpillement de leurs éclatures s'éparpillonnait en de sifflantes paillettes toutes saucisses irisées. Et chaque fois que les flavois montaient aux cieux et aux cimes, c'était l'occasion de cérémonies religieuses, de libations, de kermesses et de liesses, comme de bien entendu les diverses colorations recensées par l'observateur officiel et pitiesque donnaient lieu à diverses interprétations. Pneus, cheveux, varche, espoir, rutsch, je couche, ces dernières couleurs étaient celles qu'il préférait. Car alors, la fête se terminait par de nombreux et multiples attouchements pénétrants et impénétrants. Mais heureusement pour leur race, la période de rut suivait un plan coïtanal et ne correspondait pas au moment des éclatations qui, elles, suivaient l'ellipse noursoute et ne croisaient jamais les coïtonaux. C'était sinon les produits de ces pénétrantes caresses, petits rois, leur progéniture, bande de tarés, aurait suivi de trop près les élucidations des vieux et ils se seraient retrouvés en finalité avec des ibatures et susceptibilité d'extinction des flavois, ces êtres plus proches de la sensibilité des rapapuis carnivores que de celle de nos chasseurs d'Aquitus. Vous voyez que ça se dit facilement, vous.
L'intuition des flavois les avait intimement persuadés, malgré leur évidente faiblesse neuronique tamère, que les colorations des sacrifiés éclatants perdaient cet éclat si particulier lorsque l'événement se produisait en période diurniaisée, mais que, en période nocturnatoire, l'éparpillonnation de l'éclatage devenait nettement plus beau et, n'ayons pas peur des mots, d'un attrait plus esthétique lorsque la dimension du BBB prenait la direction de la plus énorme proportion. Aussi, afin qu'ils n'éclatassent pas trop tôt ni trop vite, et afin que la gonflation se porte au maximum, les responsables tribaux, pas très beaux, petit 1, s'agit des anciens, on se réveille ou quoi, avaient décidé à l'unanimité d'attacher les surnombreux à des piquets de tentouses. Ces piquets, petit 2 donc, pour ceux qui l'ignoreraient, proviennent des branches maîtresses d'un végétal futailleux, hermaphrodite, très résistant, sur qui poussent fruits mâles et femelles simultanément, le gaï et la gouze, d'où leur appellation. Et donc, grâce à leurs attaches, les gonflés s'énormifiaient et gonfloyant de plus belle, si on peut dire, devenaient plus légers mais plus lourds vers le haut, finissant par s'arracher des liens qui les maintenaient au sol, dièse, pour s'envoler avec majesté et sa suite tout heureuse de prendre des vacances vers des altitudes moins clémentes. Cette fois-là, le départ d'un BBB était imminent. Seuls deux liens l'unissaient encore au piquet de tentouses qui résistait farouchement à la vindicte tribaleucéenne. « Vous ne mourrez pas !» disait le premier lien, déchargeant le chargeur de son « Saint-Nicolas-Chnikov ». Mozitou, rajouta le second en lâchant son ultima granada dispersion. Les vieux de la tribu, les sages-cons, se balançaient les roupettes et tournaient autour de l'excédentaire et psalmodaient. Hoi, 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 casse pas, casse pas, casse pas. Et les jeunes, les petits cons, répondaient. Oui, 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 fléchisaf, molcouille, fléchisaf. Le père de famille, petit un, les mâles, faut vous faire un dessin, tapaient en un rythme lent de leurs membres durs sur leurs quascopes portatifs, lesquels répandaient alors leurs odeurs délicieuses. Les mères de famille, petit deux, les femelles, quoi, tarées un jour, tarées toujours, hein, portant leur progéniture, ondulaient de leurs membres mous, tandis que leurs postères rieurs émettaient de leurs rires de gorge profonde leurs chants d'allégresse sonores et proutifiants. Hallélé, hallélé, rouge, prout, prout, hallélé, hallélé, var, prout, prout, hallélé, hallélé, pneu, prout, prout.
La cadence s'accélérait petit à petit car la croyance flavois myrienne voulait que sa fille gonflait. Plus et encore plus, les malheureux flavois attachés au piquet, à demi inconscient, il ululait son désir de monter sur le rocher de la Loreley pour voir les albartes de plus près. C'est alors que l'avant-dernier lien se rompit sans crier « Garde du Nord meurt, mais ne te rends pas ». Par contre, ne sachant pas ce qu'il disait, les flavois libérés hurla « Vive la France !» Tant son émotion était grande de s'envoyer en l'air. Les flavois déchaînés, et on se demande pourquoi, vu la Kia Valpo de chêne proximitante, petit 3, même Analpuy brillait par son absence, entendèrent le chant des flavois matinés de « Brébançonne », en farceillesse bémol qui devint d'un puissant zézintounable qui se fondit avec un interminable roulement de des cascopes rehaussés d'un immense cri pulsionnel. Petit 4, je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. C'est alors qu'il y a eu un craquement sec et impérieux, le dernier lien avait craqué de désespoir et en maudissant les foyers et leurs coutumes archaïques et obsolètes. Les foyers devenus Big Ben Bomb fila comme une hallebarde, mais dans l'autre sens, dans l'obscurité de la voûte voilée, il disparut. Chacun et chacune s'arrêta instantanément, qui le criait, qui le gesticulait, qui le tam-tamait, puis ils attendaient quoi, qui, où, l'espoir, huit, les faisait halter. Leur dieu allait-il leur faire faux bond, comme dans la plupart des cas, ce dieu allait-il se manifester encore une fois, on attendit, au grand bon Tom, pensait-il tout bas, sick. Quand je dis sick, c'est sick, hein, c'est sick, et je n'y reviendrai pas. De leurs lèvres serrées, aie pitié de nous, et révèle-nous notre avenir. Il se manifesta, là-haut, une hallebarde particulièrement bien placée dans l'axe du tir, se détacha de son crochet fixé au nuage, hallebardien, voilà du boudin, et plongea droit sur l'infortuné Flavois, qu'elle transperça joliment en un grand chointement hémostatique. Le BBB se révéla être une merveille de coloris à dominante varte et pneume avec quelques pointes rouges joyeuses. Excellence augure, on allait pouvoir espérer. Wouah! Hum! Varte!
D'en bas, ce fut une explosion de joie, dont les éclats de rire atteignirent la tribu entière. Alors on mangea et l'on boiva, on pipa, baisa, sodomisa, et l'on éjacula, puis on pissa et l'on chia, puis on remissa dans l'ordre inverse. On prit exemple, métaphoriquement, sur le BBB explosé, et on s'éclata en orgies scandaleuses, pour ceux qui croient que les orgies sont scandaleuses. C'est alors qu'en plein milieu de ce stupre formi anticastriste, l'une des femelles refusa de se prêter aux exigences du numéro 327. Elle le repoussa, désigna d'un doigt encore humide la noirceur du ciel d'où retombaient les derniers scintillements irisés et en pur flaouanien s'écria « Bon Tom !»
En effet, comme si c'eût été une éclature de flavois Big Ben Bobien, un objet céleste luminescent et coloré en jaune canari soto, descendait du ciel droit sur eux et en prit probabilité un paquet de six cavitesses primes, point lumineux grandissant et grossissant au fur et à surtout à mesure qu'il se rapprochait de l'échéance. « Bon Tom !» gémit une autre femelle coïtant avec trois superbes mâles montés comme des manches de pioche. « Six, non scientifiques, Flavoilum, Erecto Verso, Berouette, Ti, Buscolar. » Cette réaction inhabituelle d'une femelle à leur assaut provoqua une perte de pression dans les tubulures et fit ressembler leur engin érectile aux mamelles de Tirésias. À cet autre cri émis dans l'acuité qui provoque le silence attentif, on releva la tête, le nœud et les paupières, on détubessa, on s'essuya le bignou, on raccrocha le surplus, on impavida l'œil en direction du bon Tom qui se pointait inexorablement. « bon Tom !» murmura-t-on laveur d'un ton effrayé. Puis petit à petit, on prononça un autre nom plus fort et plus joyeusement « condom ».« Condom » mettait-il enfin les pieds sur leur territoire ?« Condom » ou « bon Tom »
Pour tout dire, les trobettes, prophètes de leur état, les menaçaient depuis des vaincs immémoriaux s'ils ne s'assagissaient pas de la venue du dieu punisseur « bon Tom ». Sorte de monstre recouvert d'écailles, dévoreur de vierges pubères, rotant et pétant le feu à la moindre occasion. Et qu'était-ce donc que cet oufti, objet usuel fut-il très inidentifiable, sinon lui, le dieu punisseur? Ça ne pouvait être que lui. Oui, mais ce que les trobettes prophétisaient aussi, c'est qu'il viendrait certes d'en haut, mais en un éclair de chacafras, stroboscopique, retentissante, annoncé par une fricassée de musique, et croupandable et crassafant, joué par une armée de joueurs de marteaux-piqueurs dévots. Or, ce n'était pas le cas du tout, au contraire, la vache. Il n'y avait pas de son discordantaire, ni de fracas ricant, retentissant. Donc, selon la logique flaouanienne copiée en direct sur Aristote et Darwin, mais en bref, si ce n'était lui, c'était son frère, le dieu gentil et bon, Condom lui-même, zé en personne, selon les croyances, il viendrait chalouper la jaba avec eux, leur ferait découvrir des désirs insoupçonnés et les doterait pour les accomplir d'outils insubmersibles, flamboyants et rutilants, indispensables pour abattre la besogne. Ah, condom, le bon et lumineux, le gai, foutre en train, le préservateur de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Transmissile, le dieu de la fornication sans remords, le sage homme à tout cœur, sans peine, sans douleur, sans reproche de leur proche géniture. La forme même de sa carapace protectrice qui déboulait du ciel ne laissait planer aucun doute sur l'identité du visiteur. Condom, père et fils saint d'esprit étaient là. Tous étaient prosternationnés lorsque la clarté luminescente et chointoyante se posa au milieu d'eux. Nul n'osait bouger de la virgulette ou tressaillir d'un tréma. Condom était bon et généreux, soit, mais il avait, paraît-il, des colères terribles s'il était contredit, ou si quelqu'un lui raflait sous sa virile divinité l'objet de son choix, la jeune vierge ou le petit con, on le comprend. Dans le dernier cas, cela se concrétisait par une épidémie de déjection brûlante au méa des mâles et par une éruption cutanée sur les parties molles des femelles, à moins que ce ne fût une invasion de bestioles indésirables aux endroits les plus sensibles, à croire que Bontom lui-même se soit mêlé de l'exécution de cette punition. Ce qui n'était pas à exclure, le frère de l'un rendant service à l'autre, et même s'il était impensable de croire que Condom fût peut-être aussi méchant, les Flawa n'avaient rien trouvé de mieux que de sacrifier quelques enfants innocents sur l'autel de leur ignorance pour calmer la trinité courroucée.
Angèle Langine s'était posée au sol et broyait de l'extérieur comme de l'intérieur et clignotait saucisse avec une régularité de pétasse en chaleur. Rita Zellari s'esbaudissait de bon tour d'y voir ce qu'ils venaient de leur construire. En effet, Larry Zerita, surtout Rita, avait potassé toutes les revues, articles et livres qui donnaient des informations sur les Flawa. Sur les Flawa et leurs coutumes dans le Bastrinque. Il était donc au courant alternatif des mœurs de la tribu Féroas. Aussi, après cette bourrée d'altitude en nombre suffisant mais nécessaire, ils étaient arrivés en Stumelings. Oui, en 12, quoi. C'est pas de quoi. À la verticale du village flawadien. Puis, toutes lanternes éteintes, il s'était laissé tomber doucement et avec la corde d'Angèle chaussée de ses verres grossisseurs, Charry et Vary, qui permettaient de voir sans être vus, avaient pu observer de haut, du loin, des deux côtés, le départ chahuté, l'ascension clamatoire et le pétage éclectique du BBB. Ensuite, il se mélangeant aux débris qui n'avaient rien de contondant, il s'était rapproché, dissimulé parmi des redondances, puis avaient rallumé leur feu de joie et de position tout en éclairant le grand luxe de salon qu'on utilisait que pour le grand circonstance, comme le lac du même nom. Abandonnant pour leur dernière approche l'altitude qui leur restait, ils parvenaient ainsi à tromper chaque flawa en leur fourrant dans l'orbite un doigt personnel et expérimenté. C'est ainsi que la tribu entière avait pris leur descente pour une montée de l'arrivée de leur bon, de leur généreux, de leur tant attendu frère lubrifière Condom. Autant dire qu'ils n'avaient pas pris leur messie pour une baderne, que du contraire.
Larry revêt ici aisément sa combinaison la plus clonque, et Rita mit son trou là, laïtou. L'on décidit que le Disticitro demeure rue de garde dans et avec Angèle. Mais il s'en tapait le pouster rieur dans l'asphaltico ferroraggi. De toutes les façons, il était gros pramé et n'aurait pas un zeste pour sortir ses proprios des dangers d'une éventuelle altercatie. Il était là pour conduire l'engine jusqu'à ce que bien te fasse. Qu'on attentit au véhicule, alors seulement et seulement alors, on l'aurait vu ôter sa plure et distribuer des quartiers et même des pans entiers de bafnion sur quiconque eût osé ternir la carlingue d'un sang blanc d'haleine fétide. Cependant, Larry, d'une cerise de queue chiquenaudée, fit fonctionner la palmeraie au beurre noir. L'iris s'ouvrit et ils sortirent de l'engine. Rita avait pris en charge la lentille toussive ainsi que la vieille mais ô combien efficace pétularde à courroie latérale. S'ils ne s'en sortaient pas, ils auraient quand même de quoi faire passer un mauvais quart de vincresse aux assaillants avant de passer eux-mêmes aux oubliettes de l'historiette. Rassurés tous deux, Larry ajusta le bicotrompe à sa dentelle vocaleuse et ouvrant les vannes, il fit son discours d'intromission.
Alors quoi, bande de merdeux ? Éclata-t-il en rigolant les basses. C'est comme ça. On se va, son, sacrum, et précieux, proserve, batif, condam.
En bon despot qu'un bon condom se doit être, Larry écrasa d'un coup de coulac vierte les têtes des deux premiers flawa prosternés. Quoique ce fût deux de plus vieux sages-cons destinés à bref délai à s'éclater comme bébé, les flawa s'en balançaient les vestricules. Petit 10, ben quoi, place aux jeunes. Mais qu'ils mourussent aussi bêtement produisit quand même un choc en deux temps, spritch-protch, qui se répercuta 621 fois et résonna longuement comme un glaguet dans les cabochettes flawaniennes. C'est alors qu'une vieille femelle flasque osa s'approcher du soi-disant dieu condom en un rampinge savant. Arrivée à porter des écoutilles de Nozéro, elle prononça en son dialecte quelques onomatopées gutturales que Rita traduisit « hicet nunc » zés aussitôt à Larry, car ses ancêtres étaient bretons. Ceci pour expliquer au lecteur distrait que Rita, de son nom entier, Rita Dernière Le Pennec, avait étudié la langue flawanienne et s'était diplômée honorase compagne de l'univers déjà cité de Saint-Brieuc, Poilot-Neuneux.
« Je ne le ferai peu !»
éructa donc la vieille.
« Je ne le ferai peu !»«
Elle dit qu'elle a mis la soupe sur le feu !» murmura Rita à l'orical rayum à Larry.
« Nifanel biesse !» Moi si flamin !»
continua la vieille en haussant le ton d'un 8e de 17e de dB. «
Qu'est-ce qu'elle dit ?»
Salarama Laris Condom. « Elle a la trouille au ras de la moquette. Rassure-la, susurra Rita. »
Où sont le jatte? On verre du bire?
Je crois qu'elle nous a fera boire, mais je n'en suis pas sûr. Dans les études sémiologiques des phonèmes de cet ordre, mais produits sous l'effet de la peur, les professeurs Grubenstein et McHontipo ne sont pas d'accord. Il pourrait aussi s'agir d'une sorte de menace dissimulée sous le couvert de la... Il faut surtout rien prendre qui soit pas en bouteille, coupa Larry en plusieurs rondelles suspectifiles ultra fines.
Acceptons quand même quelque chose, concilia Rita.
Oui, bon, ok, d'accord, mais quoi?
Leur cramique. Cramique, c'est leur nourriture de base, à base de cras et de mic, retouillés dans leur bavassure.
Larry se re-remplit les poums et hurla.
Cramic! Avec un A en plus, trois fois de suite, cramic!
Et il attendit. Rita aussi attendit. Angèle attendit, mais elle ne le savait pas, et le Tissitro attendit y tout, mais il s'en foutait puisque c'était déjà dans son contrat. La vieille Flawa, qui se liquéfiait au sol devant eux, au risque de se noyer, n'osait plus rien dire par manque de lascivité. Enfin, ramassant avec une serpille d'hier, mais encore propre, son courage qui avait coulé avec le reste, et reléchant sa liquéfacture en 30 jours 20 mois, elle articula.
« Qui le faire, mon Dieu? Qui le faire, mon Dieu? Mais qui le faire, mon Dieu? »
Du coup, deux des pères des fourmus nombris partirent en rampage à toute berzinque vers une sorte de tupe à Bambi articulée, mais qui n'était autre qu'un pétrapade de récup qui leur servait obséquieusement de réserve à grains. Ils en sortirent deux énormidables cigores embalmabés de feuilles zelloflum pour les tenir au frais. Puis ils revinrent encore plus vite qu'ils n'étaient allés, car leur façon de rampager s'était transformée en rase-botte. Larry et Rita évitèrent de justesse les soins intenses, odoriférantes qui accompagnaient les présents et s'entèrent à une distance d'au moins 100 pour éviter le contact qui eût pu leur filer virus si l'extruellement transmissible.
C'est alors que remarquable et imposant dans son rôle de tyran tyrannique et cruel, ce qui aurait dû mettre le rut à l'oneille des flavois, vu que condom est bon et généreux, Larry crachoua sur le chramic, sans CNIH, et reprenant du gland dans les poils, il le poussa encore un peu son organasson dans la trompa bicotone.
« Vous ne méritez pas ma présence, bande débileur !» Traduit, ajouta-t-il en voix éteinte, mais pas tout à fait à Rita, ce qu'elle fit en tempérant quand même le propos. « Vos estés désébouérés, des cougnets, divers d'héros !» Et dis-leur en plus que je viens chercher le boudin à ressort. « Le moudin !» rectifia Rita. « Ouais, c'est ça, et demande-leur où est-ce qu'on peut le trouver !» Mandeleur qu'il est, c'est quoi le trouver? Piche pas. C'est où ce qu'il est, Crémardidju?
Mais avant qu'elle ne leur parle et qu'il puisse répondre, il rajouta, dis-leur ceci, si vous ne me le dites pas, je tue tout le monde et je casse tout. Non, c'est l'inverse, je casse tout puis je tue tout le monde, sinon ils ne verront pas que je casse tout.
Je traduis ça aussi, Ascarita, qui cherchait dans les Dikoflawa la traduction de Moudin Arzor. Fais comme tu le sens, ma vieille, Rilara Cani.
Elle le sentit comme ce ça.
Dis vous aveur pour lui aussi qui saute hop la boum, à vous ces biscuits de chinis. Oui, zesti. Dis v'lame s'mauvré, dis mon d'arrêt, j'avoue, et côte pied le passe.
Les flawas, à peine rassurés sur leur sort, se mirent à parler tous ensemble et en même temps, car, malgré leur débilité congénitale due à l'atrophie des lobes pariétaux de croissance intérieure, ils avaient compris qu'une ouverture se dessinait toute seule comme une grande taillée à vivre dans leur avenir immédiat. D'ailleurs, ils le saisirent à bout de bras et plongèrent dans l'abeillance avec une grâce de dauphin ex-champion olympique au meilleur de sa forme. Le brou de noix, fut indescriptible. La preuve, puis chacun se tut, ce qui est quand même plus facile à décrire. Le silence, en bonne hermaphrodite qu'il se voulait d'être, se fit. Tous se turent le tuture, sauf l'un d'œuf qui prit la parole, qui justement passait par là.
C'est Stonevoy, tot dreut! On n'avait qu'à suivre l'urida del monte, au biscuit de chinis douer pour là, juste à côté del cisa Joseph.
Rita interpréta avec le talent qu'on sait qu'elle avait sorti de son écrin la traduction suivante, mais, comme on dit, traduction trahison, en sortant du groupe de Cahuts, l'habitat traditionnel des Flawas, situé derrière la derrière de votre auguste personne. Il y a une route vagabonde qui ne mène nulle part, ne la prenez surtout pas, elle est piégée, au contraire, prenez plutôt, et vaut mieux tôt que tard, avec délicatesse et componction, le chemin bordé d'acacias en direction de l'Orient, en tenant le compte personnel de la déviation magnétique qui est très près de son budget. Et vous suivez, et alors, la ligne nouvellement plantée de Gros con, un feuillu poilu de 14-18 qui pousse dans la moiteur érotiqueur des marécages, et sans suite, juste après le pont du Tipatapop pendu, il y a un nid de boudin à ressort, premier choix, exhala Rita Bouffesouf. Bon, dit Larry, tu peux leur dire que je les trouduque beaucoup, mais que s'ils me routent en fogne, je leur coupe à tous ce qui leur sert de bidoulou, j'en fais une fricassée au beurre, une fricassée au beurre noir, et je la donne à manger au rapapli carnivore qui ferait des vins sup pour en savoir plus sur son origine. Prenant son élan pour par le milieu, Rita se lança sans l'aide de King Kong en une longue explication doublée iketmong d'un gestuel adapté et fortement visuel. Mais plus elle produisait des explications, plus les Fawa tiraient la gueule vers le bas en verre irrité, et je vous le dis, ils atterraient, ils entraient en catatonie, comme d'autres entrent en religion. Cette vocation leur tirait des gémissements, de douleur et des lamentations de malheur, pourtant vite réprimées par le regard fou, furieux et folibard de Larry, qui avait mis sa barbe du dimanche pour rire dedans. « Allez, allez, on se tire l'arigot d'ondin, » dit-il en reprenant son sérieux, qui voulait profiter de la barbe à rire pour prendre de la poudre d'escampette en cachet.
Voilà. Suite au prochain numéro.
On a vidé la salle, c'est bien, je trouve. C'est extraordinaire. La performance, c'est ça, hein, c'est de vider une salle. C'est-à-dire les gens, décourager les gens.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, deuxième question.
Oui. Le débat est ouvert. Si vous n'avez pas compris,
je peux vous dire, non, mais j'ai bien compris qu'il fallait comprendre, quoi. Ouais.
Est-ce qu'il y a il y a une allusion à la boisson dans le texte?
À la boisson. Oui, il y a sûrement des allusions à la boisson. Oui, on pourrait boire un verre, oui, c'est vrai.
Et inviter les gens à le faire aussi.
Nous vous invitons à boire maintenant.
Voilà.